En décembre dernier, nous sommes allés rencontrer Marge Casper, professeure à l'université de Tartu. Autour d'un café, elle nous a parlé de l'histoire de l'université depuis le XIIIe siècle à nos jours, de la célébration des 100 ans des cours enseignés en estonien à Tartu, ainsi que de la monographie qu'elle a coécrite sur Georges Parot, premier recteur de l'université, refondée sous Alexandre Ier en 1802. Je vous laisse écouter ça. Alors, premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Je m'appelle Marge Casper et je suis enseignante et chercheure à l'Université de Tartu, dans le département d'études françaises. Voilà, là j'enseigne des choses un peu linguistiques, lexicologie, la phonétique et après des études, tout ce qu'on peut faire avec le texte. Le texte et la société, l'analyse du discours qui est pour moi un peu... découvrir la société par des textes, par tout ce qu'on écrit dans les journaux, qu'on raconte dans les radios, enfin tout ce qu'on écrit, et c'est pas forcément dans la littérature.
Vous m'avez dit aussi que vous avez été ancienne élève de l'université de Tartu.
Oui, je suis venue à Tartu, c'était 92. Je suis entrée à l'université, donc je suis vraiment de l'époque où l'Estonie est redevenue libre. Voilà, j'étais dans un lycée qui était le premier lycée privé de l'époque et j'ai fait partie de la première promotion de ce lycée.
Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de l'université de Tartu? Donc, il y a beaucoup de choses à dire, je sais, mais par exemple, quand est-ce qu'elle a été construite? Qu'est-ce qui lui est arrivé pendant les deux guerres mondiales, pendant l'occupation? Et tout ce qui vous semble plus ou moins important à mentionner.
L'université de Tartu a été fondée en 1632 par le roi suède, Gustave Adolphe. Et donc ça, c'était la première fois. À l'époque, c'était deuxième université dans le royaume de la Suède, une université assez importante. Mais je connais davantage ce qui s'est passé un peu plus tard, parce qu'après, il y a eu différents moments, comme l'Estonie a été envahie tour à tour par différents conquérants. Après la Suède, il y a eu la Russie, donc, et après... En moment, l'université de Tartu, d'ailleurs, se trouvait aussi à Pärnu. Enfin, donc, c'était 8 ans, je crois, au moment de la guerre du Nord. Et après, il y avait même un moment où il n'y avait pas d'université du tout. Mais 1802, c'était refondé, et Tartu. Et là, cette époque, je connais un peu mieux parce que j'avais étudié avec ma collègue. Et un personnage... francophone qui a beaucoup contribué à cette refondation aussi et qui a rédigé même les statuts de l'université. Comment doit être cette université au sein maintenant de l'Empire russe parce que là c'était l'université impériale. Ceux qui étudiaient à l'université c'était surtout les nobles. Des barons baltes. D'ailleurs, l'université, justement, a été refondée pour empêcher, en fait, les barons d'aller étudier en Europe. Parce qu'à l'époque, c'était l'idée de Paul Ier, qui avait très peur de toutes les idées de lumière et toutes les idées très libertaires qui venaient de l'Europe. Il ne voulait pas ça dans son empire. Et... justement, il a interdit même d'aller étudier à l'étranger. Et si on ne peut pas aller étudier à l'étranger, donc il faut une université sur place. Et c'est là où, en fait, il y avait une discussion, soit fondée à Tartu, qui à l'époque s'appelait Dorpat, soit le fonder, c'est près de Riga, en fait, Jelga, ou Mita à l'époque. Au départ, ils ont décidé de fonder à Tartu, puis après ceux de Mita ont un peu négocié avec le tsar Paul, et on a redécidé de le mettre à Mita. Mais heureusement pour nous, le nouveau empereur, Alexandre Ier, lui, il était convaincu de faire tout autrement. Donc il a dit non, pas l'université à Jelgava, Mita, on va le faire à Tartu, d'Orpa. Et donc... là, C'était donc une université dans les idées de donner pour les barons, mais enfin, il n'y avait pas d'Estonien dans l'université. C'était un peu l'idée de Paro, de ce savant francophone qu'on a étudié nous et dont on a écrit une monographie, qui est devenu le premier recteur de l'université. Donc, dans les élections, c'était Georges Frédéric Paro. Et son idée était vraiment d'éduquer aussi les paysans du pays. C'est un peu l'idée française, parce qu'il était dans les idées de lumière française et tout. Et donc, donner l'éducation au peuple et faire le bonheur du peuple, c'est un peu ça. Et il s'est occupé aussi des écoles pour les paysans, donc pas seulement de l'université.
Pendant les deux secondes guerres mondiales et ensuite pendant l'occupation, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle a été touchée justement?
Ça a toujours au moins fonctionné, il n'y a pas eu de coupure plus tard. Mais donc, bien sûr, il y avait des guerres et il y avait encore des réorganisations parce que là où finalement l'estonien comme langue d'enseignement est entré en scène, c'était juste il y a 100 ans. C'était avec la fondation de la République de l'Estonie. Et s'il y a un État d'Estonie, il faut aussi une université dans sa langue. Donc l'université nationale en langue estonienne, c'est depuis 1919. Et la période de la Première République, on dit sa Première République, c'est entre les deux guerres. C'est toujours un lieu de création, enfin, c'est vraiment un centre pour développer la science et le peuple. Et d'ailleurs, plus que Tallinn, enfin, c'est un peu le centre pour éduquer tout le pays, c'est un point un peu central. Donc, c'est la renaissance de du peuple estonien, de tout ça, de la culture, ça aussi, c'est un peu ça. C'est la venue de Tartu. Par exemple, le café où on est pour l'instant, c'est un café qui date des années 20 et 30, et c'est un endroit où venaient les professeurs pour jouer aux échecs, lire des livres, parler avec des étudiants. Enfin, il y a tout ce côté de centre intellectuel, parce qu'à Tartu, c'est ce modèle classique de quatre domaines, enfin, jusque maintenant, c'est la médecine, théologie, les sciences dures, les sciences sociales humaines. Et tous ces gens se communiquent, enfin, dans des cafés, et ça fait aussi l'esprit de Tartu que c'est. Et ça peut s'interrompre, enfin, vous avez dit, au cours des guerres, oui, ça peut se transformé un peu en fonction de l'époque, des époques, mais c'est toujours là.
Il y a eu un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps sur la performance des élèves en Europe. Ah. Et il me semble que l'Estonie était en première position. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Comment vous l'expliquez?
Oui, ben je crois que c'est les tests PISA, voilà. Et là, oui. Les étudiants des écoles de l'Estonie sont vraiment les plus performants et tout. Et c'est, ben, je sais pas, c'est juste l'éducation est vraiment valorisée. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est vraiment on peut pas dire au cours de siècle, mais c'est dans des générations, c'est l'éducation, c'est vraiment qui est valorisée. Pour moi, c'est rien de très très particulier, c'est normal qu'on sait calculer, on connaît la géographie, ben c'est un peu des choses normales qu'on étudie à l'école.
Mais par rapport à la France qui est 22e par exemple, pourquoi il y a un écart comme ça?
Là, la raison, peut-être c'est pas politiquement correct, mais je dirais que les raisons sont sociales, les raisons sociales, parce que nous, on a un peu moins de gens qui ont des difficultés sociales. Et l'enseignement, c'est quand même plus ou moins homogène. Enfin, il y a des élèves qui ont des troubles, mais plus ou moins quand même. On n'a pas des énormes périphéries. C'est la composition de matériel à enseigner, en élève, je pensais ça en sociologie.
Vous pensez que peut-être le système français est trop rigide?
Peut-être, ça... Oui, c'est un grand pays, et dans des grands pays, c'est plus rigide. Ça, c'est un peu classique, parce que en Estonie, tous les systèmes sont faciles à moderniser. C'est ce qu'on a vu avec l'Internet, tous les moyens d'enseignement. C'est vrai que ça se passe assez vite, mais ça fait aussi qu'on a tout le temps des réformes. Ça. On n'aime pas trop, mais on essaie toujours, enfin là, ça ne fonctionne pas assez bien, il faut toujours améliorer, il faut... Nous, on parle, par exemple, d'autres sondages où on cite, par exemple, la Finlande comme exemple, où les élèves finlandais sont les plus heureux à l'école. Les nôtres, enfin, c'est pas trop... Non, mais moi non plus, mais ma fille est très heureuse à l'école. Mais on parle au moins que là, nos élèves ne sont pas assez heureux, il faut jouer davantage et il faut trouver un équilibre, je crois. Parce que donc, il faut des choses pour rendre les gens stimulés, pour les rendre plus inventifs.
Ok. Donc, vous avez parlé des 100 ans de l'estonien à l'université de Tartu. On les a fêtés l'autre jour, le 30 novembre et 1er décembre. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Vous en avez un peu parlé tout à l'heure déjà. Et comment s'est passée la célébration ici?
L'essentiel, c'est le 1er décembre, où c'est vraiment c'est symbolique, l'anniversaire symbolique de l'université. Et il y a une célébration dans le grand hall du bâtiment principal de l'université. Donc c'est les discours et tout ça. Mais cela a commencé la veille, d'abord avec un défilé, avec des torchons et tous les étudiants, ou au moins les représentations des corporations. Enfin, ce qui est un système un peu allemand, les corporations des étudiants, il y en a une dizaine à Tartu, et ils ont leurs couleurs, leurs drapeaux, c'est un peu de petits symboles, mais justement pour s'échanger un peu entre amis. Et donc, il y a un défilé où tous les étudiants et les professeurs, ça part devant le bâtiment principal de l'université et pour monter sur la colline Tomemäki, voilà, qui est au centre de Tartu, où sont les ruines de l'ancienne cathédrale. Et sur les murs de cette cathédrale, il y avait un grand spectacle illuminé. Donc il y avait des images qui racontaient un peu l'histoire de Tartu, l'histoire de l'université de Tartu. C'était justement mélangé à l'histoire du pays parce que il y a toujours ce changement de différents conquéreurs. Il y a les Suédois, ensuite les Russes, ensuite des Allemands, etc. qui ont fait conquête de l'Estonie. Et donc c'était un peu par les images, mais c'était mélangé à des images de la nature, les animaux dans la forêt, tout ça, et puis un peu la construction des bâtiments de l'université et tout ça avec des personnages célèbres dans l'histoire de l'université. Donc les premiers recteurs, les savants qui ont contribué à la célébrité de l'université à travers l'histoire jusqu'à nos jours. Et, je ne sais pas, pour la modernité, pour l'actualité. Et ouais, après, il y avait encore des concerts, il y avait une première présentation d'un symphonie écrit exprès pour l'université Partusberg, qui est considéré comme un génie de nos temps, qui a composé une symphonie pour l'université, et puis plein de choses pour célébrer.
Il y a eu beaucoup de personnes?
Oui. Ouais, c'était ouvert à tout le monde, de la ville, donc les gens de la ville, même il faisait froid, les gens sont venus pour assister parce que c'était beau à voir.
Et donc vous fêtez les 100 ans, est-ce que vous avez fêté les 50 ans avant ou juste les 100 ans?
Les 50 ans, oui, mais c'était une autre. En fait, dans l'histoire de l'université, on peut fêter plusieurs choses. C'est depuis quand 100 ans, depuis que l'Estonie, donc c'est la langue estonienne, donc on a fait ça. Mais les 50 ans. Ça devait être donc à l'époque soviétique. Et là. Ben, je crois qu'en fait, on a fêté plutôt l'anniversaire de l'université et en comptant à partir de 1802, où ça a été refondé en fait en langue russe. Donc c'est, en fait, l'université de Tartu peut avoir différents âges en fonction de cette date où on commence à calculer. Hein, c'est ce que...
D'accord. Alors, ensuite, en face de nous, plutôt sous mon ordinateur, il y a un livre que vous avez écrit avec une collègue qui concerne le premier recteur de l'université qui avait été refondé sous Alexandre Ier en 1802. Mmh. Oui. donc, Georges-Frédéric Parot. Mmh. Il était francophone et il correspondait activement avec cet empereur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce livre, de quoi est-ce qu'il traite, pourquoi vous avez décidé d'écrire par rapport à ce sujet plutôt qu'à un autre, et combien de temps vous avez passé à l'écrire, puis aussi où est-ce qu'on peut le trouver?
Voilà, c'est un livre dont l'auteur principal, elle est Epitorfri. À la base, elle est historienne de l'art, et elle a fait une thèse sur... un peu sur le contexte architectural de Tartu. Mais dans ce cadre, là, il a trouvé pas mal des archives dans des correspondances d'un type qui rédigeait en français et qui adressait ses lettres vraiment à l'empereur de la Russie. Donc il a trouvé ces matériaux, mais comme elle ne parlait pas français, il m'a engagé pour que je lise et lui traduise les matériaux. Donc c'est comme ça que moi j'ai été impliquée. Et ensemble, on a traduit, on a lu donc vraiment des milliers de lettres où il avait expliqué au tsar comment, par exemple, faire... créer un campus de l'université de Tartu. Donc c'est pas seulement pour que les idées de lumière soient exposées aux étudiants, comment les étudiants doivent se conduire. Un peu, il avait tout un complexe d'idées, et ces grandeurs d'idées, ça venait en fait que de son éducation, donc, pourquoi il était francophone? Il était né à Montpellier, une ville qui aujourd'hui est française, mais à l'époque c'était une principauté allemande, francophone, donc de petites principautés qui étaient. Et en fait, il est allé à l'université de Stuttgart, fait une académie un peu spéciale où. Voilà, des études, un peu génériques, comment gérer l'administration d'un pays. Donc c'était les sciences dures, l'agriculture, les lettres, un peu un complexe, pour avoir vraiment une idée très, très générale et complexe, comment gérer un État. Il a fait ses études, mais il a travaillé aussi un peu en France, en Normandie, mais après, pour chercher du travail, en fait, c'est purement pratique. Ben, il n'avait pas travaillé ailleurs, mais il est venu vers la Russie, où c'était un peu un pays Eldorado à l'époque, pour ceux qui connaissaient français et allemand. On peut pas dire que c'est lui qui a créé l'université, mais il est venu ici sur place, et c'est vraiment pour comment organiser, comment négocier aussi avec l'empereur, parce que il connaissait le style de l'empereur, parce que il connaissait le modèle dans lequel a été élevé Alexandre Ier. Donc on a repéré toute une série de mots clés comme honnête homme et de bonheur de peuple, tout ça. Donc il savait comment argumenter Mais il n'a pas manipulé, justement, il l'a fait sincèrement. Il voulait vraiment faire développer les idées, aussi créer les écoles pour le peuple, tout ça. Donc, c'est donc vraiment pour développer le science. Et dans la monographie, enfin, qui est de 1000 pages et plus même, on s'est concentré surtout sur les idées sur l'enseignement. Comment il voyait les modèles d'enseignement, enfin, parce qu'il était en fait physicien aussi, il y avait toute une série d'inventions, comment faire des poêles qui chauffent mieux les bâtiments ou des choses enfin, vraiment très mécaniques et techniques. Et ça, on a traité aussi un peu, on a fait voilà, en géographie, voilà un peu, mais c'est surtout au niveau d'idées sur l'enseignement qu'on s'est consacré.
Qu'est-ce que c'était principalement ces idées-là?
Mais c'était un enseignement complexe, pas seulement, enfin pas très concentré sur une spécialité. Il avait une vision de lumière de donner un tableau de connaissances. Bah, c'est un peu ça. Et l'enseignement responsable pour l'humanité. Enfin, c'était vraiment enfin, des idées un peu grandes, mais comment rendre service aux bons gens, comment perfectionner la vie des plus pauvres aussi. Enfin, donc, toutes sortes d'inventions locales. Ces idées qu'on a lues, c'était curieux. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce que l'université doit être efficace. Et l'université doit, comment dire, se spécialiser bien pour se vendre bien. Il faut être très spécialiste pour être performante. Et son idée, c'était justement de ne pas être. Oui, il faut être des spécialistes, mais il faut avoir ce table de connaissances plus générales pour savoir de quoi on est responsable. Un peu, les enseignants sont responsables de la société. Comme conception, c'est vraiment important à retenir. Enfin, quand on a présenté l'ouvrage, c'est le recteur actuel de l'université qui dit, tiens, je prends vraiment comme bible ce bouquin, parce qu'il faut, il faut le bien lire.
Et est-ce que dedans aussi, il y avait l'idée d'un enseignement qui apporte un peu l'accomplissement de soi-même, la construction de l'être aussi? Ouais. D'accord. Bon, très bien. Et alors, il est énorme. Vous avez dit qu'il fait plus de 1000 pages, oui. C'est ça? Vous avez mis combien de temps à l'écrire?
Ça, ouais, c'est plus ou moins 10 ans.
Oui.
Ouais, on a eu financement pour 4 ans, mais on a commencé avant, on a terminé plus tard. Et c'est vraiment, on a bien étudié.
D'accord. Et on peut le trouver où? Seulement en Estonie ou par exemple, on peut le trouver en France?
Pour l'instant en Estonie, dans toutes les librairies, enfin peut-être pas dans toutes, mais c'est dans les librairies en Estonie. C'est un bouquin en estonien, mais on est en contact avec la France aussi et on pense l'envoyer déjà au musée de la ville de Montpellier. Et puis on est en contact avec un chercheur qui a étudié un homme célèbre de la même époque et de la même ville et copain de Parot, c'est Georges Cuvier. Et donc la monographie sur Georges Cuvier qui vient de sortir en France est un peu en parallèle. Donc cette monographie est travaillée par Philippe Taquet et donc je vais lui apporter aussi un exemplaire de ce livre.